Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 12 avril 1988.
Continuons ce que nous avions commencé, c'est-à-dire au point de vue éthique, ce qu'est l'éthique religieuse, alors, puisque il y a eu un petit moment d'arrêt. Permet de reposer certaines choses. Je reprends la perspective dans laquelle nous nous plaçons pour essayer d'étudier ce que représente cette dimension philosophique de l'éthique par rapport à l'homme. Et je rappelle, hein, voyez, exprès, il y a une très grande diversité dans ces différents cours de philosophie, pour que chacun trouve un peu sa voie d'accès. On entre en philosophie par l'éthique. On entre en philosophie par l'art, philosophie de l'art. On entre en philosophie par la philosophie politique, certains. Puisqu'on pose certains actes politique, l'élection, on choisit, faites au moins un geste politique. Donc à partir de là, vous pouvez faire toute votre philosophie politique, savoir s'il faut voter pour tel ou tel. C'est très important, il y a un choix, puisque ce sont des élections. Donc il y a un choix, et c'est un choix politique. On peut entrer en philosophie par la réflexion sur le choix politique des élections. Ça vous permettrait de voir la différence entre la politique et l'éthique, la politique et la philosophie de l'art. Puis ensuite, on peut entrer en philosophie par un point de vue plus spéculatif, philosophie de la matière, philosophie du vivant, philosophie première. Puis certains entrent en philosophie parce qu'ils sont chrétiens. C'est une manière. Il y a différentes portes, hein. C'est comme la Jérusalem céleste, hein. Il y a différentes portes. Vous avez 6 portes et une 7e si on est chrétien. Si on est chrétien, on croit en Dieu. Et on se pose tout de suite la question, est-ce que ce Dieu qui m'est donné dans la foi, est-ce que mon intelligence humaine est totalement étrangère? Ou est-ce que mon intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir quelque chose de ce grand mystère? C'est une manière d'entrer en philosophie. Pour quelqu'un qui est profondément chrétien, nous sommes, du moins j'espère. Alors, c'est une manière. Et quand le ressort philosophique est un peu usé, ce qui peut arriver, c'est quand on a des difficultés, qu'on n'arrive pas, qu'on est devant une grosse montagne énorme, la montagne absinthe, c'est amer, on ne voit plus du tout. Il y a des obscurités en philosophie. Alors, on reprend le grand ressort. Je suis croyant. L'Évangile me dit telle chose. Est-ce que mon intelligence humaine peut dire quelque chose là-dessus? Je vois que Saint Jean est préféré du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Être l'ami du Christ. Pas si mal. Être l'ami du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mystère de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le mystère de l'amitié? Et progressivement, on voit que si on est profondément chrétien, toute mon intelligence peut être offerte à Dieu. Et mon intelligence cherche la vérité par des moyens, par des sentiers différents. Vous voyez, on peut entrer en philosophie par le sommet. On voit très bien cet exemple merveilleux, vous voyez, dans l'Évangile. Quand il y avait trop de monde autour de notre Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou dans le toit. Puis on descend le malade, juste en face du Christ. Alors c'est comme ça. En philosophie, on fait un trou dans le toit. Le toit, c'est... La foi nous donne tout de suite la possibilité de marcher sur le toit. On marche tout le temps sur les eaux, quand on a la foi. Alors on fait un trou, puis on entre. On se dit, mais est-ce que l'intelligence humaine, qui adhère à Dieu dans la foi, est-ce qu'elle est capable de dire quelque chose de Dieu? Est-ce que l'intelligence humaine est capable de dire quelque chose de l'homme? Puisque c'est l'homme qui est sanctifié. C'est l'homme qui est appelé à la béatitude. Alors, est-ce que mon intelligence humaine peut dire quelque chose? J'ai tout de suite, vous voyez, deux grands aspects. La philosophie première, est-ce que je peux dire quelque chose de Dieu? L'éthique, l'amitié. Je vous ai déjà dit, les deux grands pôles de toute notre philosophie, c'est toujours l'éthique et la philosophie première. Alors, si en philosophie première, on a beaucoup de difficultés, en tant que croyant, je peux faire un trou dans le toit et dire, mais au fond, je crois en Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très bien de partir de la foi, vous voyez? On peut le faire. Je ne le fais pas dans le cours parce que je respecte un enseignement didactique qui fait qu'on respecte tout ça. Mais soi-même, dans notre recherche, on a tous une recherche propre au plan philosophique. Le cours, c'est très bien, mais ce n'est pas le cours qui va vous faire découvrir votre propre démarche philosophique. On a tous une démarche propre au plan philosophique qu'on doit essayer de découvrir. Alors, si on est croyant, il y a une démarche du croyant. Mais l'Église n'a cessé de répéter. Vatican I, on oublie un petit peu trop. Parce que Vatican I était tellement court comparativement à Vatican II qu'on oublie complètement Vatican I. Mais Vatican I a dit des choses intéressantes. L'infaillibilité du pape, c'est quand même intéressant. Et puis, les voies d'accès vis-à-vis de l'existence de Dieu. L'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu. Vatican I a dit ça parce qu'il savait très bien la grande montée de l'athéisme, la grande montée de l'agnosticisme, la grande montée du fidéisme. Vous voyez bien, l'athéisme, on nie l'existence de Dieu. L'agnosticisme, on dit l'intelligence humaine est incapable de dire quelque chose de Dieu. Et le fidéisme, qui consiste à dire seule la foi peut me dire quelque chose de Dieu. Or, le fidéisme est condamné par l'Église. Donc, je n'ai pas le droit de dire ça, si je suis croyant. Et la foi catholique me dit, j'ai possibilité par moi-même de remonter jusqu'à Dieu. Donc si je suis catholique, fondamentalement, si je suis un vieux catholique, on doit, pardon, vieux catholique dans le sens où le disait notre évêque, si je suis un vieux catholique, c'est-à-dire un catholique qui s'appuie sur toute la grande tradition, parce qu'en Suisse, les vieux catholiques, ça a une autre signification. Vous savez bien, les vieux catholiques, ce sont ceux qui ne sont pas les jeunes catholiques, par définition. Et les jeunes catholiques, ce sont les catholiques qui croient à l'infaillibilité du pape. C'est très beau, du reste, ça montre la jeunesse nouvelle dans le catholicisme. C'est très curieux. Alors, ils se sont appelés vieux catholiques. Il y a des évêques vieux catholiques. À Berne, en Hollande, il y a des vieux catholiques. Moi, j'ai connu le président des homéopathes suisses. C'est quand même quelqu'un. Le président des homéopathes suisses. Qui était vieux catholique, parce que c'est son père qui avait installé les vieux catholiques à Soleure, qui est redevenu jeune catholique. Je l'ai reçu dans l'église. Passer des vieux aux jeunes, pas si mal comme conversion. Et si on est catholique à fond, on doit comprendre que l'intelligence humaine est capable de remonter jusqu'à Dieu. Si on ne peut pas le faire soi-même, on dit l'Église nous le dit. Donc c'est vrai. Je n'y arrive pas, mais je vais quand même essayer. Et au fond, toute notre vie, si on était vraiment catholique, toute notre vie devrait être tendue vers ça. Offrir à Dieu notre intelligence. Or, on offre à Dieu son intelligence que lorsque notre intelligence est mise entièrement au service de la foi. Et notre intelligence est mise entièrement au service de la foi quand, justement, comme disent les théologiens du Moyen-Âge, on découvre les préambula fidei. Alors, traduisez les préambules. Les préambula fidei. C'est-à-dire tout ce qui est le fondement naturel de la foi. C'est très important, ça. Parce que ça nous donne du courage, vous voyez, à faire un peu de philosophie. Il faut tout le temps redonner un peu de courage. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fiche à faire cette philosophie? Et oui, en faisant la philosophie, vous obéissez à l'Église. Vous obéissez au pape. Un théologien de Rome, que je ne nomme pas, m'avait dit il y a quelques années, assez pessimiste, hein, c'est du temps de Paul VI, assez pessimiste, mais il m'a dit 95% des théologiens qui enseignent aujourd'hui dans les facultés catholiques sont fidéistes. Je n'ai pas à vérifier, hein. Je répète simplement, 95%. Alors il ajoutait, ils sont fidéistes, donc ils sont hérétiques. C'est embêtant, un professeur de théologie, parce qu'ils sont persuadés que l'intelligence humaine est incapable par elle-même de remonter jusqu'à Dieu. Ils ne se posent plus la question, ils disent non. Que de fait, on voit les très grandes difficultés, c'est normal, surtout aujourd'hui. Mais on doit accepter ce que l'Église nous dit, l'intelligence humaine est capable par elle-même de remonter. Or ceci, hein, faut bien se le dire, c'est Vatican I qui l'affirme. Mais quand vous faites l'enquête auprès des pères de l'Église, jusqu'à saint Thomas. Je l'ai faite, cette enquête, parce que ça m'intéressait. Vous voyez que presque tous les pères de l'Église le disent. Il y a une ou deux exceptions. Presque tous. Ils disent tous, on peut affirmer l'existence de Dieu. On ne peut pas dire ce qu'est Dieu. C'est très beau. Le tiesti de Dieu, ce qu'est Dieu, on ne peut pas le dire. Dieu transcende. Mais que Dieu existe, oui. Mon intelligence est faite pour cela. Vous voyez, c'est ça qui est très beau. Mon intelligence est faite pour cela. Tant que mon intelligence n'est pas arrivée à découvrir par elle-même l'existence de Dieu, mon intelligence n'atteint pas sa fin. Elle reste un peu errante. C'est pour ça que c'est si important. C'est quelque chose de capital pour nous, dans le monde d'aujourd'hui. Et ça permet aussi de mettre mon intelligence au service de la foi. Une intelligence qui n'est pas remontée jusqu'à l'existence de Dieu ne peut pas être mise au service de la foi. Voyez, l'autre jour, ça me frappait beaucoup ce que je vous ai dit. À Bethléem, ce jeune qui connaît très bien tout le climat scientifique américain, me disant qu'aujourd'hui, le problème de la création, on le considère comme un problème scientifique, dont on doit donner l'explication scientifique. Il n'est absolument pas obligé de poser l'existence de Dieu. Le mot s'explique par lui-même. Donc, conclusion, si vous croyez, si vous affirmez que Dieu existe, vous ne pouvez le dire que par votre foi. C'est du fidéisme. Je crois que c'est très important pour nous de bien comprendre cette exigence qui nous est demandée. Ça nous est demandé. Surtout si un jour on enseigne la théologie. Ça peut arriver. Il faut que tout prêtre soit capable d'enseigner la théologie. Puisqu'il l'enseigne tout le temps. Quand vous préparez quelqu'un au baptême, vous enseignez la théologie. Et vous l'enseignez à des enfants. Et enseigner la théologie à des enfants, il faut être très calé. C'est plus difficile d'enseigner la théologie aux enfants que d'enseigner aux grandes personnes. Parce qu'il faut avoir un langage tout à fait évangélique. Et qui soit vrai. Il faut donc que toutes nos études reprennent, toutes nos études philosophiques, reprennent leur vigueur dans cette grande affirmation de Vatican I. L'intelligence humaine est capable par elle-même de remonter jusqu'à sa source, jusqu'à l'existence de l'être premier. Alors, dans ces avenues, il y en a une qui est très importante. C'est regarder l'homme dans son aspect volontaire. L'homme est un être capable de se diriger. L'homme est un être capable de responsabilité. L'homme est un être capable de poser des actes volontaires. C'est ça le point de départ de l'éthique. L'homme est capable de poser des actes volontaires. Je ne suis pas comme un animal qui broute l'herbe autour du poteau. Je ne suis pas comme une vache ou comme un chien. Évidemment, le chien est fidèle. Alors, il y a une question de fidélité. Vous savez, c'est la prière de l'arche. Jamais l'oublier. La prière de l'arche, tous les animaux qui s'adressent à Dieu. Alors il y a le chien qui s'adresse à Dieu, qui s'adresse au Père, et qui dit, entre nous, il n'y a que vous et moi qui sommes fidèles. Très très joli, hein. Entre nous, il n'y a que vous et moi qui sommes fidèles. Tous les autres, oh là là, les hommes, oh là là. La fidélité chez les hommes et chez les femmes. La fidélité. Entre nous, il n'y a que moi. Il n'y a que vous et moi qui sommes fidèles. Les autres, non. Plus du tout. C'est vrai, c'est vrai. La fidélité, ça pourrait être le point de départ de l'éthique. Est-ce qu'on demande à un homme, quand il a donné sa parole, d'être fidèle? Quand un homme a donné sa parole, il a donné sa parole. Quand un ouvrier dit « je vais vous faire ça » et qu'il se place un petit contrat amical, même si ce n'est pas écrit, mais il n'a pas le droit de quitter avant d'avoir terminé. Vous voyez la fidélité hein, dans la vie commune. Quand vous demandez à tel frère « faites ceci, je ne peux pas le faire », puis que le frère fait 5 minutes, vous êtes parti, tourne et puis s'en va. Il n'y a plus de vie commune. S'il n'y a pas de fidélité, fidélité à la parole. Pas, n'est-ce pas uniquement le contrat écrit. Hein. Le contrat écrit, c'est quand on n'a plus assez confiance. Alors on demande que ce soit écrit. La fidélité. C'est une des paroles les plus étonnantes de l'Apocalypse. Hein. À la fin, chapitre 21, quand on montre qu'au fond ne pénètre dans la Jérusalem céleste que ceux qui sont dans la fidélité. Tous les autres, c'est le mensonge. Et vous auriez là quelque chose d'extrêmement intéressant à voir. Il y a 7 formes de mensonge. Enfin, je vous les étudier. Parce que je crois que ce serait très intéressant. L'idolâtrie, c'est un mensonge. L'impureté, c'est un mensonge. Toutes les sortes de mensonges. Sept. Car cela ne pénètre pas dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est le lieu de la fidélité. Marie, c'est la fidélité. Et ça, c'est un regard théologique. Et c'est intéressant de voir que le dernier regard sur la Jérusalem céleste, c'est la fidélité. Gabriel Marcel, au plan philosophique, le thème central de Gabriel Marcel, c'est la fidélité. Et je comprends très bien que la fidélité peut être un thème extraordinaire pour entrer dans l'éthique. Alors, ce serait très intéressant, vous voyez, de relever tous les petits sentiers qui me font entrer en éthique. Je vous en trace un, la fidélité. La fidélité est une voie royale. Alors vous me dites, le chien est fidèle. Ah oui. Alors, c'est un animal éthique. Le chien est fidèle. C'est vrai, il est très fidèle, le chien. C'est une fidélité étonnante. Le chien est fidèle. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la fidélité du chien? Est-ce que la vache est fidèle? Le chien est fidèle en fonction d'une certaine vie commune. Curieux, puis un dressage. On a vécu ensemble. Alors le chien est fidèle. Alors ça serait intéressant d'étudier la fidélité du chien. Est-ce que c'est moral? Oui, je prends exprès. Il y a un sentier, la fidélité. Il y a un autre sentier par où je peux entrer en éthique, qui a été très battu. Un sentier très rocailleux, un sentier très fort, le devoir. Tu dois faire ça. L'impératif catégorique de Kant. Tu dois faire ça. C'est vrai, c'est une manière d'entrer en éthique. Alors, l'avantage, là, c'est qu'on voit mieux la différence entre l'homme et le chien. Parce que quand tu dis au chien, et quand on dit au chien, tu dois faire ça, il vous regarde. Tandis que quand on dit à un gosse, tu dois faire ça, le chien comprend quand on dit tu dois faire ça et puis il ne fait pas. Alors on prend la verge, puis on lui donne un coup. Hein, comment ça rentre? Oui, l'imperium commence à rentrer par le coup de bâton. Quelquefois un peu comme ça pour le gosse. Capricieux, tu dois faire ça. Tu dois prendre ta soupe. Chaque fois que vous entrez au réfectoire, tu dois prendre ta soupe. Tu dois prendre un peu de pain. Tu dois faire ça. Donc, fidélité, devoir. Une autre voie d'accès, la responsabilité. J'aimerais que, voyez, parce que c'est important pour nous de voir toutes les voies d'accès par où on entre en éthique. Quelle est pour vous l'expérience type qui vous conduit à ce problème de l'homme moral? De l'homme qui est un animal moral. Pour que ça vous dise quelque chose, parce que la morale, vous savez bien... Ça peut être aussi l'attitude religieuse. Quand je regarde le peuple d'Israël, le peuple juif, quelle est notre dominante? Un seul Dieu, tu adoreras. C'est donc par la porte religieuse que l'éthique s'impose. Et de fait, C'est comme ça que le peuple d'Israël est un peuple qui a essayé d'accomplir son devoir. Ça existait. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre porte ? Ah, le bonheur. Aristote, le bonheur. On est fait pour le bonheur. Aujourd'hui, c'est difficile de dire ça. Camus vient par derrière Aristote et dit « Ne parlons plus de bonheur dans un monde si triste. » Plus personne n'y croit. C'est le Père Noël, le bonheur. Un jour par an. Et il y a le Père Fouettard qui suit. Et au fond, c'est pas tout le bonheur. Le bonheur, le bonheur. On y a cru. Mais il n'y a pas de bonheur. Et Camus dit « Il n'y a qu'une seule voix. » Qu'une seule voix, le beau. Est-ce que le sens esthétique me conduit au point de vue moral ? Je me pose un problème, voyez. Il faut se poser tous ces problèmes-là, parce que vous serez en face de gens, aujourd'hui, qui n'ont plus aucun sens moral. Il n'y a pas seulement l'indifférence religieuse, mais il y a l'indifférence morale. La laïcisation poussée à l'extrême conduit à la matérialisation. Et la matérialisation supprime le sens moral. Alors comment pouvez-vous rééduquer une humanité qui n'a plus le sens moral ? Comment pouvez-vous saisir en vous, réveiller en vous le sens moral ? C'est quand même très important, ça. Un être humain qui n'a plus aucun sens moral, est-ce que c'est encore un homme ? Une anthropologie, puisque c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, une anthropologie qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale, est-ce qu'elle existe encore ? Et posons-nous toutes ces questions au point de départ. Et il faut essayer soi-même de découvrir la fibre la plus sensible, celle de notre expérience la plus vécue, qui nous pose le problème moral, le problème éthique. Quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal ? Monod disait ouvertement dans les rencontres internationales à Genève, il y a quelques années, on éduque un enfant comme on dresse un chat. Ouvertement. Donc, le dressage et l'éducation, c'est la même chose. Ah, c'est peut-être une manière d'entrer en éthique. Quelle différence y a-t-il entre le dressage et l'éducation ? On a tous dressé un chien, du moins, peut-être. Vous dressez un cheval, un jeune poulain. C'est admirable de dresser un animal. Pas quand il est vieux. Ça, c'est la rééducation. C'est le redressage. C'est pas très drôle. Tandis qu'au contraire, l'éducation, le dressage, c'est magnifique. Quelle différence y a-t-il ? Éduquer et dresser. C'est une manière d'entrer, voyez, l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'auto-éducation ? Est-ce que vous êtes capable de vous dominer d'une manière telle que vous vous corrigez ? Subitement, vous découvrez en vous un terrain volcanique. C'est bien l'exemple du volcan du Zaïre, hein, il y a quelques années. Cette chose étonnante. C'est un fantasme merveilleux quand on essaie de nous l'appliquer. Ce volcan qui commençait à cracher, alors on le surveillait. On surveillait le cratère. C'est normal. Des spécialistes. Donc, un tout petit peu avec leur idéologie. Des spécialistes surveillaient le cratère. Un beau jour, ça a craché sur le côté. Les spécialistes étaient en haut, et puis le volcan crachait. Je trouve ça admirable, moi. surveiller leur idéologie. Un volcan, ça crache par le cratère. On ne peut pas cracher autrement. Alors on surveille le cratère. Puis subitement, ça a éclaté sur le côté. Alors ils étaient en haut, coupés du sol. C'est extraordinaire. C'est peut-être un très bel exemple d'une idéologie. Vous voyez, on plane, on est suspendu. Il y a des exemples de l'idéologie aujourd'hui extraordinaires, avec les hélicoptères. C'est tout à fait ça. Ils peuvent très bien ne pas toucher le sol et puis vous apporter où besoin vous en êtes. Heureusement qu'il y avait des hélicoptères pour les approvisionner, pour leur donner la nourriture qu'il fallait. Au fond, subitement, on découvre en nous des passions. Et c'est vrai, on découvre en nous des passions. Le concupiscible et l'irascible. On s'était jamais mis en colère. On avait tellement bien éduqué. Il y avait trois vernis au-dessus de nous. On s'était jamais mis en colère. Au bout d'un an de vie religieuse, on commence à se mettre en colère. Ah, c'est beau l'éducation religieuse. On a surveillé le cratère et puis... Pht, c'est quand même curieux ça. Et c'est vrai. On découvre ça, là, on pourrait partir de là. Nous sommes des êtres passionnés et nous luttons contre nos passions. Vous voyez, l'auto-éducation. L'auto-éducation, ça consiste à découvrir les passions qui sont en nous et à essayer de les endiguer. Comme on peut. Pas les supprimer, mais les endiguer. Comprendre que les passions, oui. Les passions de 18 ans, de 25 ans, de 45 ans, de 70 ans, ne sont pas les mêmes. Les vieillards en face de Suzanne, cet exemple que nous donne l'Écriture, c'est extraordinaire ça. L'auto-éducation, ça se fait tout le temps. On nous éduque et on s'éduque. C'est une manière de saisir ce que c'est que l'éthique. Donc, voyez, il faut bien vous dire ça, parce que ça, je crois que c'est très important au plan philosophique, de comprendre que la voie d'accès aux problèmes philosophiques de l'éthique est multiple. Il n'y a pas qu'une seule voie. Alors évidemment, dans l'enseignement, on en choisit une, mais il y en a des quantités d'autres. Ce serait très intéressant, une fois, de partir de l'éthique kantienne. Tu dois faire ça. Et de montrer que l'éthique kantienne n'aboutit pas jusqu'au bout. Parce que tu dois faire ça. Au nom de quoi? Alors il faut regarder Nietzsche, qui envoie des poulets rouges contre Kant. Tu dois faire ça. C'est la voix de ta conscience. Et ta conscience, qu'est-ce que c'est? Ah, la conscience, pour Kant, elle est reliée à Dieu. Donc Kant entend Dieu. C'est peut-être qu'il imagine. Est-ce que tu dois faire ça? C'est ce qu'il y a de premier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand? Mais on cherche. Il faut chercher beaucoup, ça. À travers nos expériences. Est-ce que je peux fonder une éthique à partir de l'expérience première de ma vie? Quand j'étais dans le berceau, vous vous souvenez bien, le petit berceau dans lequel vous étiez si gentil à ce moment-là. L'expérience du berceau, la première expérience de l'enfant, l'amour qu'il a pour sa mère, est-ce que je peux faire une éthique à partir de là? Ou est-ce que c'est une reconstruction? Je ne peux pas faire une éthique sur une reconstruction. Sur la réminiscence. Il y a une réminiscence de connaissance et il y a une réminiscence affective. La première claque que vous avez reçue de votre père. Elle a claqué celle-là. Que vous vous souvenez, quelquefois on s'en souvient toute sa vie. Et on garde un petit peu. Quand je serai grand, je répondrai. Œil pour œil, dent pour dent, gifle pour gifle. Alors je répondrai. Donc ça reste quelque chose comme ça. Le premier moment de la rencontre avec l'autorité. C'est une manière de faire l'éthique. Il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas d'autorité. Je crois pas. C'est curieux, vous voyez. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Qu'il y a de multiples manières de partir pour l'éthique. Nous en avons choisi une. Parce que je crois que c'est la plus parfaite. C'est peut-être très ambitieux de dire ça, mais je crois. J'ai fait le tour de toutes les expériences, croyez-le. Il y en a une qui me semble capitale, l'expérience de l'amour d'amitié. Alors évidemment, ça, c'est pas du tout l'éthique de l'enfant dans le berceau. C'est l'éthique de l'homme mûr. Aristote fait cette réflexion que seul l'homme mûr peut faire une philosophie éthique. Le jeune homme ne peut pas. Il peut faire des mathématiques. Mais l'éthique, non. Il est trop passionné. Si vous êtes dans les passions, c'est impossible. Marie Magdala ne pouvait pas faire d'éthique au moment de sa conversion. La preuve, c'est qu'elle a gardé le parfum. Vous ne pouvez pas faire d'éthique, c'est impossible. Il faut certaines dominations sur soi. Je crois que c'est la condition propre de l'expérience éthique. Alors, nous partons de l'amour d'amitié. Une expérience que nous pouvons tous avoir. Et je dis que cette expérience est ce qui nous permet de découvrir ce que représente la fidélité. La responsabilité, le devoir. Et en même temps, à partir de là, nous comprenons toutes les exigences d'une éthique humaine. Je n'aime pas de dire une éthique laïque. Je dis une éthique humaine. L'éthique humaine, c'est de sauvegarder les relations de l'homme avec l'homme. L'éthique humaine, c'est l'éthique qui permet à l'homme d'être face à un autre homme. C'est l'éthique de la personne humaine. Et cette éthique de la personne humaine doit partir donc de l'expérience type de l'homme face à l'homme. Or, je crois que l'expérience type de l'homme face à l'homme, c'est l'amitié. C'est là où l'expérience est la plus forte. Alors, l'amitié implique tout de suite l'expérience d'un amour volontaire. Et je découvre progressivement qu'il ne peut pas y avoir d'éthique sans amour. Et là, je vois tout de suite la fragilité de l'éthique de Kant. Le devoir présuppose l'amour. Quand il n'y a que le devoir sans amour, ça peut exister un certain temps, mais ça n'existe pas très longtemps. On aboutit à une éthique stoïcienne, qui est peut-être très grande, qui a sa noblesse, mais qui a aussi sa tension. Il y a des gens qui sont tout le temps tendus. Alors au bout d'un certain temps, ça craque. L'éthique de la tension. La tension de l'arc. Alors, on sommes partis de là, je crois, jusqu'à nouvel ordre. Et nouvel ordre, c'est-à-dire, si vous posez des questions telles que je vois que ce n'est pas juste partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Avec toutes les gammes, l'amour d'amitié, l'amitié, ça peut aller très loin. Et l'amitié, ça peut être quelque chose de très simple, la camaraderie. C'est une amitié. Et c'est suffisant, la camaraderie suffit pour donner une certaine expérience du respect de l'autre et de son amour, de la découverte de l'autre, la découverte du volontaire, la découverte de la responsabilité. Vous voyez, l'éthique commence dans les relations humaines, de l'homme face à l'homme. Ce n'est pas l'homme dans son travail, transformation de l'univers, qui me fait découvrir le premier moment de l'éthique. Ça, c'est très important. Je découvre tout de suite ces deux relations distinctes. L'homme capable de transformer l'univers et l'homme face à l'homme. Et si vous êtes dans la relation humaine toujours avec le désir de transformer l'autre, vous ne l'aimerez jamais. Et ça, c'est vrai. Si, en vie commune, vous êtes toujours à dire « Oh, ce frère, il ferait bien de se corriger », vous n'arriverez jamais à l'aimer. Ça, c'est le facere, c'est l'efficacité. L'efficacité ne nous donne pas l'expérience de la morale. L'efficacité, c'est l'expérience du travail. Un travail demande d'être efficace. Vous ne demandez pas à l'amour d'être efficace. Ah, il y a un amour utilitaire. On sait très bien que ce n'est pas le véritable amour. Ce n'est pas le grand amour. L'amour, c'est aimer l'autre pour lui-même. Comme mon bien. Comme celui qui m'attire. Et cet amour n'est parfait que quand il est réciproque. Dans l'amour d'amitié. Donc, le premier moment de l'éthique se fonde sur l'amour d'amitié. C'est ce que j'appelle l'éthique humaine. Mais il y a une autre expérience. Soit à cause des traditions religieuses dans lesquelles je me trouve, soit grâce à la foi, soit grâce à la découverte philosophique que j'ai faite, qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu et qui est mon créateur. Je découvre qu'il y a une nouvelle dimension dans l'homme. L'homme est capable de regarder celui dont il dépend radicalement, son créateur. Et là, j'ai une nouvelle relation. La relation de l'homme avec son créateur. Et cette relation, je la découvre dans l'expérience de l'adoration. L'adoration est un acte volontaire. L'adoration est un amour très particulier, un amour à l'égard de celui qui est mon créateur, de celui dont je dépends totalement, radicalement. J'ai là une nouvelle dimension de l'éthique, qu'on appelle l'éthique religieuse. C'est pas la même. Comprenons bien, c'est une distinction que je fais, hein, c'est pas une séparation. L'attitude religieuse n'exclut pas l'attitude humaine. Mais elle permet à l'attitude humaine d'atteindre toute sa dimension. L'homme n'est parfaitement humain que lorsqu'il est religieux. Puis la troisième dimension, l'éthique chrétienne. Je vis dans une culture chrétienne. Du moins, certains pays. Et je vois que par la révélation, chrétienne, par le message du Christ, il y a une profondeur nouvelle à l'éthique. Je regarde ça en philosophe. Jésus n'est pas seulement un homme, un ami. Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus est Dieu. Vous voyez, quand Pilate a entendu que Jésus se disait fils de Dieu, il était très troublé. Il a commencé à comprendre que son éthique religieuse n'était pas suffisante. Et il a dû se dire à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À travers un homme, trouver Dieu. C'est bouleversant. Il était très très troublé. Et ça nous est raconté. Hein. Et que ce Dieu est rejeté de son peuple, des grands prêtres. C'est pas étonnant. Parce que s'il est Dieu, il a notre exigence. Là, on découvre une troisième dimension dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a une possibilité d'une troisième dimension. L'éthique chrétienne. Je crois que c'est très important pour nous, aujourd'hui, de distinguer toujours ces trois niveaux d'éthique. En tant que philosophe, hein, je dis bien, en parlant de l'éthique chrétienne, je ne suis pas encore théologien. Mais je me prépare. Et c'est là où on peut parler du problème de la philosophie chrétienne. Par l'éthique chrétienne, il y a une modification de la philosophie grâce à Jésus. Je ne crois pas qu'il y ait une métaphysique chrétienne, mais il y a une éthique chrétienne. Et par l'éthique chrétienne, on peut parler d'une philosophie chrétienne, en faisant grande attention, et en comprenant qu'est-ce que c'est que cette philosophie chrétienne, qu'est-ce que c'est que cette éthique chrétienne, ce qui n'est pas commode à bien voir. Une des grandes manières d'entrer dans ces trois niveaux de l'éthique, c'est de regarder l'homme face au problème de la mort. Là, vous comprenez tout de suite les trois niveaux. La mort pour l'homme,